Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle.
Et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. Et jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, alors on va avancer dans ce magnifique traité sur la foi. Donc il y a des choses sur le polycopie, mais pas grand chose. Donc je vais compléter pour ce qui manque. Avant de compléter, je voudrais lire, surtout pour ceux qui m'écoutent sur Internet, beaucoup d'entre vous ont été importunés par les finéistes dans cette secte condamnée par le pape XII en 1953 qui nie le baptême de sang, le baptême des désirs. Et donc, justement, il y avait au bréviaire, il y a quelques jours, un texte là-dessus qui est splendide et qui met à zéro tous les arguments des finéistes. Donc, c'est dans le martyrologe, donc c'est une des sources de la foi, les sources de la révélation, donc le martyrologe qui explique justement, qui contient l'historique, le nom de tous les saints canonisés par l'Église. Et donc il y en a une qui s'appelle Sainte-Émère Ancienne, qui est une petite vierge martyre, tout à fait du début de l'Église, qui était la sœur de lait de Sainte-Agnès, c'est-à-dire qu'elle avait été élevée par la même pas mère, mais on appelle ça, il y a un mot pour ça, la même nourrice, c'est ça le mot que je cherchais. Et donc elle a été martyrisée sur le tombeau de Sainte Agnès. Et voilà ce que dit le bréviaire romain. Donc, c'est comme une autorité, que le bréviaire romain est une des sources de la révélation. Émère ancienne, vierge romaine, sœur de lait de la bienheureuse Agnès et encore catéchumène, donc elle n'était pas encore baptisée. Elle est animée d'une foi et d'une charité ardente. Comme elle reprochait avec véhémence aux adorateurs des idoles les violences qu'ils exerçaient contre les chrétiens, elle fut lapidée par une multitude ameutée. Priante au milieu de ses souffrances, elle fut baptisée dans son propre sang, qu'elle répandit courageusement pour le Christ et rendit son âme à Dieu près du tombeau de Sainte Agnès. Parce que ça clôt tous les problèmes, il y a bien un baptême de sang. Un baptême de sang, ça a toujours été enseigné par l'Église, parce que j'ai encore reçu un coup de téléphone d'un type à moitié fou. Et j'ai raccroché parce que je refuse catégoriquement les deux types de personnes avec lesquelles je refuse de parler, parce qu'on perd son temps, c'est les témoins de Jéhovah et les finéistes. Ils ont contre eux toute l'Église. Alors, si les finéistes qui m'écoutent ne sont pas d'accord, qu'ils me trouvent un seul texte, d'avant 1958 évidemment, un seul texte, s'il est vrai que le baptême de sang et le baptême de désir est une erreur grave, parce que ce serait gravissime d'enseigner le baptême de sang et le désir si ça n'existait pas, qui me trouve un seul texte de l'Église catholique, donc d'avant 1958, qui disent expressément ceux qui enseignent l'existence d'un baptême de sang ou d'un baptême de désir, qu'ils soient anathème. Ils nous ont jamais trouvé un texte comme ça. Dès qu'ils m'ont trouvé un texte comme ça, je me fais finir demain matin. Mais tant que ce texte-là n'est pas trouvé, qu'ils me fichent la paix, qu'ils ne cherchent pas à me convertir au finis, parce que ça ne marchera pas. Bien sûr, mais ils ont contre eux toute l'histoire de l'Église. Donc, on va reparler un petit peu de tout ça, parce qu'on touche au traité de la foi, ça touche à la foi, attention. Attention, une des conditions pour être membre de l'Église, c'est le baptême. Et le baptême d'eau, quand il est impossible, parce que les gens sont en train de se préparer au baptême, n'ont pas eu le temps encore d'être baptisés avec le baptême d'eau, le baptême de désir et le baptême de sang, dans des cas d'exception comme ça, donne la grâce sanctifiante, ça c'est sûr et certain. Alors, nous en sommes sur le polycopier, Alors, toujours pareil, j'ai toujours parfois des petites différences de page au niveau des polycopiés, je m'excuse. D'abord, le polycopié, je crois que c'est la page 90 ou 91. J'ai encore rechangé le polycopié, je l'ai mis à nouveau sur le site. Le texte est le même, mais ça fait toujours des changements de page, je ne sais pas très bien pourquoi. Donc, on en est à la question 3, article 2. Donc, avec une question évidemment très importante, à savoir si la confession de la foi est nécessaire au salut. Donc, on a déjà vu, je reprends un petit peu les choses qu'on a déjà vues pour être sûr que on suit bien l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Donc, saint Thomas d'Aquin, dans ce traité sur la foi, c'est un traité, le premier traité de la Seconda Seconde, deuxième partie de la deuxième partie. Donc, il y a 16 questions, questions 1 à 16, rapport de l'objet de la foi. Donc, il va bien expliquer tout ça à partir des textes de saint Paul aux Hébreux, l'argument de ce qui ne se voit pas. Hein. Donc, on ne peut avoir la foi qu'avec des choses qu'on ne voit pas. Si on voit quelque chose, ben, on n'a pas besoin d'avoir la foi pour quelque chose qu'on voit. Donc, la foi a pour objet Dieu qui ne se voit pas. D'accord? Donc, on a déjà vu tout ça. Ensuite, deuxième chose, deuxième question, l'acte de foi, de l'acte intérieur de croire. Donc, on a déjà vu tout ça. Hein. Il faut à la fois il faut une adhésion ferme de notre sentiment pour exprimer l'acte de foi. L'acte de foi, donc une adhésion de notre intelligence à Dieu. Hein. Sans la foi, rappelons-nous, il est absolument impossible de plaire à Dieu. La foi est donc nécessaire pour arriver à la connaissance de Dieu. Hein. Il faut croire donc qu'il existe, que Dieu existe, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hein. Pour pouvoir justement avoir cette vertu théologale de foi dont on parle. N'oublions pas ce que j'expliquais plusieurs fois, mais qui est capital à comprendre, c'est que la foi est enracinée. Dans un catholique, il ne va pas disparaître comme ça en 5 minutes, à tel point que le péché mortel ne va pas faire disparaître la foi. Cependant, la foi a besoin d'être alimentée par la charité. Si la charité n'est pas là, bien on va avoir une foi informe. On expliquera après, plus tard, le passage magnifique de saint Thomas d'Aquin, où il explique bien justement que la crainte servile entraîne une foi non formée, informe. Et la crainte d'amour, l'amour du bon Dieu, la crainte d'agapé, d'amour du bon Dieu, elle au contraire entraîne une foi formée. Donc on va voir tout ça. Donc question 3, l'acte extérieur de la foi. Donc je voudrais insister un petit peu sur la question. Donc, 3, article 2, donc qui est à la page 90 ou 91 selon les polycopiés, à savoir la confession de la foi, elle est-elle nécessaire au salut? Hein? Donc voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Hein? Donc il faut croire de cœur pour être justifié, il faut pour être sauvé, il faut confesser sa foi par la parole. Dieu ne demande pas simplement une foi interne, il faut que cette foi passe à l'extérieur. Bon. Notamment à chaque fois qu'un silence de notre part pourrait être interprété par les ennemis de la foi comme un acquiescement au reniement qu'on nous demande de la foi catholique. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est nécessaire. On a besoin d'affirmer notre foi. On peut affirmer notre foi par des paroles, mais c'est possible être par des gestes. Un simple signe de croix est une affirmation de notre foi. S'habiller correctement, par exemple, dans un monde complètement où les femmes sont habillées comme des prostituées à longueur de journée, pour une femme, c'est déjà quelque chose de très important. Le port de la soutane pour un prêtre est un acte de foi. Hein. Donc, la confession de la foi, alors, voyons ce que dit saint Thomas. Donc, il faut croire de cœur pour être justifié et il faut confesser sa foi par la parole. Non. Cependant, le précepte de confesser sa foi est un précepte affirmatif. Et ces préceptes, quoi qu'ils soient toujours obligatoires, n'obligent pas tout instant, on ne vous demande pas de faire un acte de foi toutes les 30 secondes, bien sûr. Donc la confession de la foi, explique saint Thomas, n'est pas de nécessité de salut en tout temps et en tout lieu, mais elle l'est seulement lorsque son omission priverait Dieu de l'honneur qui lui est dû ou le prochain d'un secours auquel il a droit. Bon. Par exemple, vous n'êtes pas obligé constamment de manifester par vos paroles, de prêcher la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si on vous demande. Si on pose la question, même dans un milieu hostile, dans un milieu de travail par exemple, un milieu professionnel ou autre, on vous demande est-ce que vous croyez que Jésus, que le Christ est Dieu, et qu'on ne répond pas, alors là, c'est un péché contre la foi. Parce que notre absence de réponse, va être interprétée comme un acquiescement avec ce qu'on essaie de nous faire croire, de nous faire dire. Hein. Donc dans certains cas, on est obligé de parler, et sinon, on pêche contre la foi. Un homme qui, par exemple, interrogé sur la foi, dit saint Thomas, donnerait à croire en ne répondant point, ou qui n'a pas la foi ou que la foi n'est pas vraie, serait donc dans la nécessité de confesser dans ce cas-là sa foi. Il en serait de même de quelqu'un, de celui qui devrait causer par son silence l'apostasie de quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Donc, saint Thomas va expliquer que quand la gloire de Dieu ou l'intérêt du prochain l'exige, nous ne devons pas nous contenter d'être unis à la vérité divine, nous devons confesser extérieurement la foi. Il ne s'agit pas simplement, par exemple, vous voyez quelqu'un qui est c'est une comparaison, mais c'est pour expliquer, quelqu'un qui est en difficulté parce qu'il est malade ou qu'il a besoin absolument d'une aide médicale pour pouvoir se sauver, sauver sa vie, il suffit pas de prévenir, attention, là, quelqu'un qui est malade, il faut faire ce qu'on peut, à la mesure où on peut faire quelque chose pour aider cette personne, donner les médicaments dont il a besoin. Hein. Donc, quand la gloire de Dieu ou l'intérêt du prochain existe, nous ne devons pas nous contenter d'être unis à la vérité divine, nous devons confesser extérieurement la foi. Hein. Donc, il ne serait pas bon de la confesser publiquement dans le cas où, sans aucun avantage pour elle ou pour les fidèles, on produirait des troubles parmi les infidèles. Par exemple, ça c'est important aussi à comprendre, hein. Le bon Dieu ne demande pas à un ouvrier, par exemple, qui travaille dans une usine, hein, qui est entouré de communistes ou de gens qui sont très opposés à la foi, de faire des grands signes de croix devant tout le monde à chaque fois qu'il touche un boulon. Bon, parce que là, ça devient littéralement de la provocation. De la même façon que pendant les grandes persécutions dans l'Église, contre l'Église catholique, tout à fait au début de l'histoire de l'Église, depuis 67 jusqu'à 313, eh bien, l'Église interdisait aux gens d'aller se manifester directement aux persécuteurs leur foi catholique. S'ils étaient pris, il fallait qu'ils acceptent courageusement le martyr. Mais ils avaient le droit de se cacher, ils avaient même le devoir de se cacher. Bon, il y a eu quelques cas d'exception, qui sont vraiment des exceptions, mais ordinairement, l'Église interdisait justement aux fidèles d'aller se dénoncer eux-mêmes comme catholiques. Parce que, justement, pour éviter la présomption. Il y a eu quelques cas malheureux de gens qui sont suffisamment forts pour le faire et qui ont piteusement apostasié, justement, à la crainte des tortures. D'accord ? Et donc, on peut utiliser cette phrase de notre Seigneur, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Hein ?» Mais dans certains cas, donc on ne jette pas nos perles aux pourceaux, de peur que, dit l'évangile Saint Matthieu, chapitre 7, verset 6, de peur que se retournant contre vous ne vous déchire. Mais lorsqu'il y a nécessité ou utilité, on doit confesser sa foi ouvertement sans s'inquiéter du trouble des infidèles. Dans certains cas, si notre silence peut être interprété comme une apostasie, il faut parler. Hein. Donc, tout en nous méfiant énormément de l'orgueil et de la présomption. Il faut la prudence et la sagesse. Alors, dans le polycopier même, vous avez partie de ce texte, donc page 90. Je ne vais pas relire parce que je viens déjà de lire sur un autre livre. Donc, dans les cas, encore une fois, où notre silence pourrait être interprété comme une apostasie, on doit parler. Et l'Église nous demande, dans certains cas, de confesser notre foi dehors. On aurait le droit, par exemple, encore une fois, d'éviter des sujets de conversation religieux dans un milieu très hostile. C'est pas du tout interdit. Imaginez, surtout en usine, un travailleur, un ouvrier dans l'usine, qui évite les discussions de ce genre devant les ouvriers. Bon, il n'en parle pas, mais il est bien évident que si un jour quelqu'un lui demande expressément « Êtes-vous catholique ?», il ne peut pas répondre non. S'il répond non, d'abord ça serait un mensonge, et là ça serait vraiment un mensonge contre la foi, ce serait grave quand même. Voyez, mais il aurait le droit d'éviter les histoires tant que c'est possible pour rendre tout simplement la vie commune possible dans une entreprise, sinon ça deviendrait absolument impossible. Hein. Alors, voilà ce qu'explique Saint Thomas d'Aquin, donc je complète le texte de Saint Thomas. La foi est la substance des réalités à espérer, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est Saint Paul aux Hébreux. La foi est donc agissante par la charité, de même que l'intellect spéculatif, selon le philosophe. Philosophe, c'est Aristote. En s'étendant, devient... De même que l'intellect spéculatif, en s'étendant devient pratique. La charité est donc appelée la forme de la foi. En tant que par la charité, l'acte de la foi est vraiment formé et parfait. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que La charité va donner la vie à la foi. Bon. La foi, c'est le fait croire les vérités de l'Église catholique, mais il faut qu'il y ait une lumière, si vous voulez, qui donne vie à cette foi, à cette sève, en quelque sorte, surnaturelle, c'est la vertu de charité. Donc, si la foi est associée à la vertu de charité, c'est-à-dire à l'état de grâce, à ce moment-là, la foi est vivante, ce qu'on appelle une foi formée. Il faut prendre le mot formé sous le sens philosophique du terme. La forme, on dit que l'âme est la forme du corps. D'accord ? C'est l'âme qui donne la vie au corps. Donc de même que l'âme est la forme du corps, de même la charité est la forme de la charité. La forme de la foi. Donc s'il manque la foi, eh bien, il manque quelque chose de très important. Hein. Je voudrais aussi, j'ai oublié de le dire la dernière fois, je crois, aussi, surtout pour ceux qui m'écoutent sur Internet, il m'arrive parfois de faire des erreurs dans ma diction. De prononcer un mot pour un autre, ça m'arrive assez souvent. Parfois je m'en rends compte, parfois je ne m'en rends pas compte. Donc il faut que les gens qui écoutent sur le site soient capables de faire le rectificatif. Quand je m'en rends compte, je rattrape. Ça m'est arrivé une fois pour une fête de Noël, un sermon mémorable, je ne sais plus où j'étais, de souhaiter à tous mes fidèles une bonne fête de Pâques le jour de Noël. Bon, ça c'est typique de la vérification. Par exemple, au dernier cours d'exégèse aussi, j'ai mélangé les synoptiques et comment on appelle ça ? Les évangiles synoptiques, qui sont les trois évangiles qui se ressemblent, à savoir Saint-Marc, Saint-Luc et Saint-Matthieu, avec les évangiles qui n'ont pas été reconnus par l'Église, qu'on appelle les évangiles, j'ai plus le mot, j'ai du mal avec l'âge, maintenant à retrouver certains apocryphes, voilà, donc j'ai inversé apocryphes et synoptique au début du cours, j'ai rattrapé quelques minutes après, donc quand vous écoutez le cours, ne soyez pas surpris, ça peut arriver, en général c'est évident, donc... Pour ceux qui ont été un peu choqués par ça, je m'excuse. Donc je répète, les évangiles synoptiques sont les évangiles qui se ressemblent, à savoir Saint-Marc, Saint-Matthieu et Saint-Luc. Les évangiles apocryphes sont des évangiles qui ont été écrits, qui n'ont jamais été reconnus comme canoniquement acceptables par l'Église canonique. Donc l'infaillibilité et l'inspiration divine ne s'appliquent pas aux évangiles de ce genre. Donc on verra tout ça. Donc, la charité est donc nécessaire pour que la foi soit vivante. Cependant, si je perds la charité par un péché mortel, ça ne veut pas dire pour autant que je perds la foi. Cependant, ma foi doit devenir faible. Exception, si les péchés mortels qui ont fait perdre la charité sont des péchés contre la foi. Par exemple, je commets des péchés contre la pureté, par exemple. Un péché mortel contre la pureté. Ça fait perdre la grâce sanctifiante, c'est évident. Et je n'ai pas perdu pour autant la foi, parce que la pureté en tant que telle n'a pas un lien direct avec la foi. Bon. Par contre, si je multiplie les péchés contre la foi, par exemple en m'associant les hérétiques, en allant dans des réunions maçonniques, antichrétiennes, etc., si je multiplie ces péchés contre la foi, il en est évident qu'au bout d'un certain temps, si je multiplie les péchés contre la foi, eh bien ces péchés multipliés contre la foi vont finir par éroder la foi elle-même.
Les doutes.
Et voilà, c'est qu'on accepte de jouer avec le feu en matière de foi. Là, c'est extrêmement dangereux. Et il faut faire très attention à ça, parce que tant que c'est la charité qui a sauté par le péché mortel, la charité, on la retrouve par la grâce sanctifiante. Hein. Mais quand c'est la foi qui a sauté, quand la foi est morte, il n'y a plus rien à faire, hein, humainement parlant, parce que personne ne va aller se confesser sur la foi. Il faut la foi pour aller se confesser. Donc si vous multipliez les péchés contre la foi... Vous allez devenir de plus en plus faible pour aller vous confesser. Au bout d'un certain temps, vous ne croirez plus à la confession, au pouvoir du prêtre de pardonner les péchés, parce que vous aurez complètement perdu la foi. Et là, c'est la quadrature du cercle, vous ne pourrez plus arriver à vous en sortir. Il faut faire très attention, ne pas rester dans le péché mortel. Je dis tout le temps aux fidèles, ne restez pas dans le péché mortel. Quand on commet un péché mortel et qu'on perd la grâce du bon Dieu, malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive à Saint-Pierre, ça arrive à Judas. Mais surtout pas y rester. Une personne qui reste dans le péché mortel pendant plusieurs mois, par exemple, volontairement, une personne qui joue avec le feu, parce que le fait qu'on n'ait plus la charité en nous va éroder de plus en plus la foi. Et on finit par attaquer les fondations mêmes de la foi catholique. Donc, la charité est appelée donc la forme de la foi, dit saint Thomas, en tant que par la charité, l'acte de la foi est vraiment parfait et formé. Mais, aussi peut-on, dit-il, appeler la vertu humaine un habitus qui est toujours le principe d'un acte bon. C'est quelque chose qui est, en quelque sorte, l'habitus, c'est quelque chose qui est constant en nous, d'une certaine façon. On utilise le mot habitus, l'habitus de la foi, c'est quelque chose qui est comme une seconde nature, si vous voulez, en nous. Bon. La foi informe n'est pas une vertu formée. Bon, la foi informe n'est pas ce qu'on appelle un habitus. Attention. Hein. Pourquoi ? Parce que la foi, si vous voulez, on peut expliquer par un exemple. La foi d'un non-catholique n'existe pas. Il n'y a pas de vertu de foi chez un non-catholique, c'est impossible. Il peut y avoir certains éléments de la foi catholique chez un non-catholique, par exemple un protestant qui croit que Dieu a créé le ciel et la terre, par exemple. Il y en a beaucoup. Bon. Est-ce qu'il a la foi catholique pour autant ? Non ! Parce que pour avoir la foi catholique, il faut accepter l'intégralité des dogmes de la foi catholique. Il suffit que vous en niez un, comme tous les dogmes sont unis entre eux comme les doigts d'une même main, il suffit de nier un seul dogme de la foi catholique pour que tout s'écroule. Hein. C'est comme les fondations d'une maison. Il faut que les quatre fondations de la maison, les quatre coins de la maison soient stables. Il suffit qu'il y en ait qu'un qui soit instable, et du coup tout s'écroule. La maison sera instable elle-même. Hein. Donc ça, il faut faire attention à ça. Donc la foi informe, dit saint Thomas, n'est pas un habitus, c'est-à-dire c'est pas une seconde nature chez nous. Si l'acte de foi informe du côté de l'intelligence et la perfection requise, il ne l'a cependant pas du côté de la volonté. Pour l'acte de la foi, il faut et l'acte de volonté et celui de l'intelligence. Il faut les deux choses. La foi va travailler sur notre intelligence, mais il faut aussi que la volonté embraye, si vous voulez, sur le sujet, pour pouvoir maintenir la foi dans le bon sens. La sagesse a pour objet les réalités éternelles et la science, au contraire, les réalités temporelles. La volonté ne peut tendre vers Dieu d'un amour parfait si l'intelligence ne possède pas une foi droite en ce qui concerne Dieu. Donc pour que la foi puisse survivre longtemps, il faut la charité. Une foi informe ne peut pas rester informe pendant longtemps. Elle va finir par mourir. Donc il y a trois étapes. Foi formée si on a la charité. La charité saute, c'est foi informe. Si la foi informe demeure informe pendant trop longtemps, ça va être la perte de la foi. On le voit très bien. Moi, je le vois très bien ici, par exemple, autour de Padiès, je suis près d'Elby. Donc, la plupart des gens autour de moi, des paysans autour de moi, qui ont mon âge, si vous voulez, qui ont la soixantaine, ils disent tous catholiques. Alors, demandez, est-ce que vous êtes catholique ? Ah oui, bien sûr, moi je suis catholique. Vous allez à la messe le dimanche quelque part ? Ah ben non. Vous priez un peu ? Ben non. En fait, ils sont tous catholiques non pratiquants. Qu'est-ce que c'est qu'un catholique non pratiquant ? Un catholique non pratiquant, la question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Est-ce qu'un catholique non pratiquant a l'habitus de la foi ? La réponse est non. Il n'a pas l'habitus de la foi. Pourquoi ? Parce que, étant catholique non pratiquant, il ne remplit pas les premiers commandements de Dieu. Et c'est tout le premier. D'accord ? Il va refuser de la messe du dimanche, il va refuser tout simplement de mettre le bon Dieu à tout première place dans sa vie de tous les jours. Il va faire passer ses vaches ou son champ avant le bon Dieu. Et donc, comme il manque justement cela, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le catholique non pratiquant, en fait, vit dans le péché mortel jusqu'au cou. Il y a des catholiques non pratiquants qui ne sont pas conversés depuis 40 ou 50 ans. Moi, eux, qui sont en état de grâce, les gars, ne sont pas en état de grâce, c'est sûr que non. N'étant pas en état de grâce, leur foi est de plus en plus faible. Alors, ils ont beau se dire catholiques, en fait, ils ne sont plus catholiques. Pourquoi ? Parce qu'ils nient beaucoup trop de dogmes de la foi catholique. Et sont des membres, on peut dire, sont des membres pratiquement morts de l'Église catholique. Parce que quand on ne confesse pas pendant 5 ou 6 mois, pendant 5 ou 6 ans, ou 5 ou 50 ou 60 ans, ce qui est souvent le cas, eh bien ça veut dire que la foi est morte en eux. D'accord ? La charité est morte, bien entendu, mais aussi la foi, parce qu'ils refusent finalement de faire quoi que ce soit. Et c'est ça le drame. Je me rends compte quand je parle un petit peu avec eux, ils me rencontrent, je suis en train de dire mon bréviaire dehors ou n'importe quoi. Ah, mais c'est bien d'avoir un prétend, putain, c'est vraiment plaisir. Et puis. On sent très bien que tant que ça reste à ce niveau-là, ça va. Mais dès que je leur dis, j'ai une petite chapelle ici, vous voulez la voir ? On sent que déjà, venez, j'ai monté la chapelle. Bon, ils voient la chapelle, ah, c'est très joli, c'est très beau. Bon, allez, il faut que je m'en aille. Ils sentent très bien pourquoi il faut qu'ils partent. Parce qu'ils savent très bien que je vais essayer de leur dire, mais il faudrait peut-être venir à la messe ce dimanche. Et là, ils ne veulent pas.
Mon Dieu dans le ciel et pas sur terre.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans la pratique, un catholique non pratiquant qui prétend croire en Dieu, mais qui dans la vie de tous les jours fait comme si Dieu n'existait pas, est encore plus coupable qu'un païen complet qui ne sait même pas qu'il y a un Dieu. Et donc là, il faut faire attention à ça. C'est un point, à mon avis, très important. C'est-à-dire que un catholique non pratiquant n'a plus l'habitus de la foi. Parce que quand on reste pendant 50 ou 60 ans sans se confesser, sans utiliser les sacrements, on a beau prétendre être catholique, en fait, on ne l'est plus. On est catholique de nom. Un catholique de nom, c'est ça, quoi. Catholique non pratiquant, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire un catholique qui n'a que le nom de catholique. Quelqu'un qui n'a que le nom de catholique, c'est quelqu'un qui n'est plus catholique, justement. C'est-à-dire catholique, l'Église catholique, la foi catholique est une praxie. Ce n'est pas simplement quelque chose à croire. Il faut aussi vivre sa foi. Ah, mais moi, je crois en Dieu et je crois en toute la foi catholique. Vous croyez, monsieur, en la nécessité de la messe ce dimanche? Vous croyez, monsieur, en la nécessité de vous confesser régulièrement pour rester en état de grâce? Mais combien d'années que vous n'êtes pas confessé? Oh, bon, monsieur l'abbé, j'ai des tas de choses à faire. C'est combien d'années que vous n'êtes pas confessé? Il ne veut plus parler. Et après, on sent très bien, ils gardent leur distance d'une certaine façon. Ils sont polis, gentils, mais ils gardent leur distance. Pourquoi? Parce qu'ils sentent très bien que s'ils s'approchent un peu trop de moi, ils vont finir par devoir revenir à la messe ce dimanche, ce qu'ils ne veulent pas. Alors par contre, les non-catholiques qui se convertissent, les nouveaux convertis, n'ont pas ce problème. Parce que justement, ils savent très bien d'où ils viennent et ils ont pas envie d'y retourner. Bon. Donc la confession de la foi est nécessaire au salut, justement, pour ne pas donner l'impression aux gens, justement, que la foi est quelque chose de tout à fait secondaire pour nous. Hein. En gros, un catholique, c'est quelqu'un qui met notre Seigneur à première place dans sa vie de tous les jours. Hein. Si je mets ma vache avant tout le monde, avant le bon Dieu dans ma vie de tous les jours, comme paysan, par exemple, ça veut dire que le bon Dieu passe après. Si je fais passer mon chien ou mon chat ou ma vache ou mon chat avant le bon Dieu, ben ça veut dire que le bon Dieu passe après tout ça. Donc c'est un blasphème épouvantable contre le bon Dieu. Alors, voyons un petit peu la question 4 maintenant, la vertu de foi. C'est pas, tout ça, ce n'est pas sur le polycopie. Je ne peux pas tout mettre sur le polycopie. Donc il y a un trou là entre la question 3, article 2, jusqu'à la question 5, article 3. Donc je vais compléter ce trou et après il y aura un gros trou encore entre la question 5 article 3 jusqu'à la question 15 article 3. Donc je vais compléter ce qui n'est pas dans le polycopier. Hein. Donc Saint Thomas au début de la question numéro 4, oui, je l'ai déjà expliqué, Saint Thomas, enfin je me contente de répéter ce que fait Saint Thomas en fait. Saint Thomas qui était un professeur né, si vous voulez, répète toujours les choses. C'est la technique j'appelle ça le tuilage, mais il y a des tuiles, on met une tuile, on recouvre cette tuile partiellement avec celle qui va arriver au-dessus, et elle va un peu plus loin. Puis on recouvre la deuxième tuile un peu avec la troisième tuile, et on monte chaque fois un peu plus vers le sommet du toit. Mais chaque tuile recouvre une partie de la tuile qui est inférieure. Et donc il faut toujours faire ça, à mon avis, quand on enseigne. La cinquième enseigne que je donne toujours aux jeunes prêtres, ou au professeur aussi, c'est que pour enseigner, il faut d'abord réexpliquer ce qui a déjà été enseigné au cours précédent. Revenir rapidement en arrière sur le cours précédent et rajouter quelque chose. Donc on assure l'arrière en recouvrant la tuile précédente et on avance un peu. Donc c'est un petit peu la technique, si vous voulez, trois pas en avant, un pas en arrière à chaque fois. Et donc Saint Thomas lui-même répète, question 4, qu'est-ce que la foi ? La substance des choses que nous devons espérer, l'argument c'est que nous ne voyons pas. Mais ça a déjà été dit. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Attendez. Oui, la belle fille. Rappelez-moi s'il vous plaît dans une heure, je suis en train de donner un cours là. Okay. D'accord, dans une heure, merci. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone, donc je vais... Excusez-moi. Hop, voilà. Donc, Saint Paul aux Hébreux, chapitre 11. Donc, Saint Thomas va reprendre cette définition de la foi. Substance des choses que nous devons espérer, de l'argument de celles que nous ne voyons pas. En fait, il va revenir sur deux textes de Saint Paul. D'abord celui-là que je viens de citer. Ensuite, un deuxième qui dit que la foi... Et l'habitude de l'esprit qui commence en nous la vie éternelle en faisant adhérer notre intelligence à des vérités que nous ne voyons pas. C'est toujours le même enseignement de Saint Paul, c'est-à-dire la foi conserve quelque chose qui ne se voit pas. D'accord ? Donc l'assentiment même de la foi, c'est une adhésion ferme de notre esprit à des vérités qui ne nous est pas donné de voir. Si nous pouvons voir les vérités qui sont au sujet de la foi disparaît, elle n'est plus nécessaire. D'accord ? Donc c'est à la fois... la substance des choses que nous devons espérer, puisqu'on les espère, c'est qu'on ne les a pas encore, puisqu'on ne les a pas encore, on ne les voit pas encore. Et en même temps, c'est une habitude, un habitus de l'esprit qui commence en nous la vie éternelle. C'est très fort comme phrase. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui a la foi catholique, formée, attention, hein, il parle de la foi catholique formée, hein, donc avec la forme de la charité, quelqu'un qui a en lui la foi vivifiée par la charité a déjà en lui la vie éternelle.
Je crois qu'il le dit, Saint Paul, dans Hébreux 11, verset 2.
Oui, c'est possible, c'est surtout voilà. Effectivement l'épître de Saint Paul.
Voilà, parce qu'il dit,
l'épître de Saint Paul aux Hébreux qui parle de la foi.
La foi a le début du commencement de la vie éternelle.
Ouais, c'est ça.
Il va aura.
Oui, non, mais c'est exactement ça. Exactement ça. Hein. Alors, la foi réside-t-elle dans l'intelligence, demande Saint Thomas. Hein. Donc, il répond affirmativement en expliquant bien que la foi est un acte de l'intelligence. Est un acte de l'intelligence. Pourquoi ? Parce que la foi va illuminer en quelque sorte, va illuminer l'intelligence. Parce qu'il dit, croire est un acte de l'intelligence mû par la volonté à donner son assentiment. Il faut deux choses. D'abord l'intelligence pour croire, et ensuite la volonté pour donner l'assentiment aux articles de foi. Donc cet acte procède de l'intelligence et de la volonté à la fois. Dès lors, pour que l'acte de foi soit parfait, dit saint Thomas, il faut qu'il y ait habitude vertueuse dans la volonté et dans l'intelligence. Donc bien que la foi va travailler surtout avec l'intelligence, cependant, il faut un assentiment de la foi qui va être donné par la volonté. D'accord ? Et c'est pour ça que, c'est un détail, en fait c'est un détail qui n'en est pas un, hein. Il faut quand on veut maintenir la foi dans l'âme de nos enfants, il faut à la fois éduquer leur intelligence et éduquer leur volonté. S'il manque éducation de la volonté, la foi ne va pas demeurer vivante longtemps. Et s'il manque éducation de l'intelligence, la foi ne va pas demeurer vivante longtemps non plus. Donc il faut une éducation de l'intelligence par l'étude. Donc, obliger nos enfants à travailler, surtout nos adolescents, hein, qui ne peuvent pas se contenter simplement du petit catéchisme de première communion, ça ne suffit plus. Hein. Donc il faut aider nos enfants justement à étudier la foi catholique. Dès qu'ils arrivent à un âge où ils sont capables de comprendre certaines choses, les faire travailler. Hein, je connais des grands adolescents qui déjà, avec la grâce du bon Dieu, écoutent par exemple le cours que j'ai vu sur Saint Thomas, sur l'internet, soit sur la somme théologique, soit le catéchisme, etc., pour se former dans leur foi. D'accord ? Et il faut aussi éduquer la volonté. En n'oubliant jamais que la porte d'entrée dans l'éducation de la volonté, c'est la vertu de l'obéissance. Donc si on n'apprend pas un enfant à obéir quand il a 5 ou 6 ans, c'est pas la peine d'essayer de lui maintenir la foi dans la cervelle et dans l'intelligence quand il en aura 20 ou 25. Hein. Il n'est pas capable d'obéir, il sera incapable d'obéir à la loi du bon Dieu. Et il va devenir un catholique non pratiquant. Donc attention, donc, voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Donc, pour que l'acte de foi soit parfait, il faut qu'il y ait habitude vertueuse dans la volonté et dans l'intelligence. On peut dire absolument que la vertu de la foi réside dans l'intelligence comme dans son sujet. Cependant, l'intelligence ne suffit pas. L'intelligence reçoit en quelque sorte le don de foi, mais il faut que la volonté embraye après pour donner l'assentiment. Un sentiment de la volonté, d'accord ? Alors, saint Thomas va se poser la question, il répète en fait les mêmes choses, mais là on est dans la question 4, à chaque fois il va un peu plus loin dans la démonstration, il se pose la question, qui avait déjà touché en partie, mais là il va en plein sur le sujet, la charité est-elle la forme de la foi ? Donc on a déjà répondu, la charité est la forme de la foi, parce qu'elle est l'acte de la foi, effectivement, formée et perfectionnée par elle. Donc, c'est la charité qui, étant la forme de la foi, donne à la vertu de foi sa forme dernière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la foi sans la vertu de charité, eh bien, une foi morte. Hein ? Vous vous rappelez le texte de saint Paul, hein ? C'est la grande épître de saint Paul, l'amien livre de la charité, 1 Corinthiens chapitre 13. Si je n'ai pas la foi, je n'ai rien. Il ne dit pas si je n'ai pas la foi, je n'ai rien. Il dit si je n'ai pas la charité, je n'ai rien. Parce que la charité est bien plus importante que la foi. Certes, on ne peut pas avoir la charité sans la foi, c'est impossible. Donc celui qui a la charité, ipso facto, a la foi. Ça c'est très important aussi pour démontrer les hérésies des finéistes, parce que les finéistes ne comprennent pas ça du tout. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la charité, quand quelqu'un fait un acte par exemple de charité, de donner sa vie pour le bon Dieu, c'est le cas d'un martyr par exemple. L'exemple de sainte Émérancienne dont j'ai parlé, ça fait le 23 janvier, donc c'est un exemple typique. Elle n'est pas baptisée. Elle donne sa vie pour le bon Dieu. C'est un acte de charité. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, elle fait un acte de charité surnaturel. Donc, poussé par la grâce du bon Dieu qui lui donne la force de résister au martyr, de résister à la persécution terrible, souffrance terrible du martyr. Donc, elle a la charité, ipso facto, la foi. On dit, mais la foi ne peut être donnée que par le baptême. La foi peut être donnée hors du baptême, justement, par un acte de charité parfaite. Parce que la charité ne peut pas exister la charité ne peut pas exister sans la foi. Donc si quelqu'un fait un acte de charité parfaite, ipso facto, ça veut dire que Dieu lui a donné aussi le don de la foi. C'est pareil pour l'espérance. Donc on peut avoir la foi et l'espérance sans la charité, mais si on a la charité, on a ipso facto la foi et l'espérance. Et pas simplement la foi et l'espérance, on a la foi et l'espérance à leur degré le plus important. Parce que justement, la charité culmine tout ça. C'est ce que dit Saint Paul lui-même à la fin de 1 Corinthiens chapitre 13. De ces trois, la foi, l'espérance, la charité, la plus importante, c'est la charité. D'accord ? Donc ça, c'est une question qui est très, un article qui est très important. Donc la charité, je répète le corps de l'article, la charité est la forme de la foi, en ce sens qu'elle donne à la vertu de foi sa forme dernière, l'acte de la foi est effectivement formé et perfectionné par elle. Bon, alors, quatrième article de la question numéro 4, donc toujours sur la vertu de foi. Donc, je vais un peu rapidement parce qu'on a déjà expliqué tout ça. La foi informe, c'est-à-dire sans la charité, peut-elle devenir foi formée réciproquement? La réponse est oui. Il y a des théologiens qui ont prétendu qu'autre est l'habitude de la foi formée, autre est l'habitude de la foi informe. Il n'en est pas ainsi. Pourquoi? Parce que c'est la même foi. Que ce soit informe ou formé, c'est toujours le même habitus de foi. Bon. Cependant, l'habitude de la foi formée n'est pas autre que celle de la foi informe, et que la foi informe devient la foi formée sans cesser d'être elle-même. C'est toujours la même foi. Donc comme l'enfant devient homme sans cesser d'être lui-même, comme l'être imparfait devient parfait sans cesser d'être numériquement le même être. Dans cette transmutation de la foi, ce qui change, ce n'est pas la foi elle-même, c'est le sujet de la foi, l'âme qui la possède, tantôt sur la charité, tantôt avec la charité. La foi est toujours là, mais elle n'est plus vivifiée par la charité. C'est comme un poisson qui se retrouve hors de l'eau, quoi. Il manque quelque chose d'absolument essentiel. Donc la foi informe peut devenir la foi formée tout simplement par un acte de charité, une bonne confession, va garder l'habitus de la foi, parce que l'habitus de la foi demeure, mais la bonne confession va redonner la vie à cette foi qui était moribonde. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et on voit très bien la campagne ici, quand on parle avec les paysans, ils ont une foi informe depuis tellement longtemps qu'en fait, dans la pratique, ils n'ont plus la foi. Bien qu'ils se prétendent toujours catholiques.
Ils se disent laïcs, et dans leur tête, laïcs, c'est en fait, je ne pratique plus vraiment, quoi. Ouais. C'est pour les prêtres, c'est pas pour nous.
Ben oui, mais le problème, c'est que ce que je leur dis, quand ils me racontent ça, je leur dis, mais vous savez, le jour de votre mort, c'est pas M. Macron qui va vous juger, c'est bon Dieu. Et M. Macron, il sera jugé par le bon Dieu. S'il ne sera pas jugé d'après la loi de la République française, ou dite française, il sera jugé par la loi divine. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Donc, c'est ce que dit saint Thomas en conclusion de l'article. Ce qui change, ce n'est pas la foi elle-même, c'est le sujet de la foi. L'âme qui la possède, tantôt sur la charité, tantôt avec la charité. Si j'ai la charité, j'ai la foi informe, j'ai la foi formée, pardon. Si j'ai la charité, j'ai la foi formée, à ce moment, j'ai la vie divine en moi. Et comme disait saint Thomas tout à l'heure, il a déjà en lui le début de la vie éternelle. Donc, quelqu'un qui a une foi formée par la vertu de charité, qui est donc la vertu de charité qui vivifie sa foi, et quelqu'un qui a dans son âme déjà un petit bout de paradis. C'est l'enseignement de l'Église. Au contraire, celui qui prétend avoir la foi mais qui n'a plus la charité, parce qu'il ne se confesse plus, qu'il vit un tel péché mortel jusqu'au cou, eh bien, cette personne-là, en fait, n'a plus l'amour du bon Dieu. D'accord ? Donc, ce n'est pas simplement, il faut se rappeler ce qu'a dit notre Seigneur, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, ça c'est la foi informe, mais celui qui écoute la parole du bon Dieu et qui la met en pratique, ça c'est la charité. D'accord ? Alors, et là, il va se poser ensuite la question, je vais vite parce que c'est des choses qu'on a déjà vues en partie. La foi est-elle une vertu? Article 5 de la question 4. La foi est-elle une vertu? Il répond de façon magistrale, la foi formée, oui, la foi informe, non. Et donc, ça veut dire quoi? C'est ce que je viens de vous dire, en fait, sous d'autres termes. Celui qui n'a plus, une fois vivifié par la charité, n'a plus la vertu de foi en lui. Il a un cadavre de foi qu'on appelle la vertu, la foi informe. La foi informe, c'est une foi sans vie. Donc, c'est comme un cadavre sans vie, avec la différence qu'un cadavre humain, une fois qu'il est mort, il est mort. On ne peut rien faire. Et l'âme est jugée, puis c'est fini. Et c'est, va aller dans une éternité de bonheur, une éternité de malheur ou au purgatoire. Mais pour la foi, c'est comme quelque chose de différent. C'est-à-dire que la foi informe, dit saint Thomas d'Aquin, n'est plus une vertu. Donc, quelqu'un qui est un catholique de nom, en fait, n'a plus la foi, contrairement à ce qu'il croit, à ce qu'il dit. Si je lui pose la question, est-ce que vous êtes catholique? Oui. Est-ce que vous pratiquez? Non. Est-ce que vous avez la vertu de foi? Ben oui, ben non, vous n'avez plus. Vous n'avez plus la vertu de foi parce que vous ne pratiquez plus la foi. On peut donner un exemple tout simple. C'est comme si je demande à un ami, à un monsieur qui est marié, vous aimez votre femme? Oui. Vous lui prouvez de temps en temps? Oh bon non, je me dis que je l'aimais depuis 50 ans. Bon ben, vous croyez que votre épouse va croire que vous l'aimez toujours? C'est facile de dire j'aime encore mon épouse, il faut encore le prouver, il faut encore le manifester par des petits gestes, par des paroles, par des actions, par des petits caresses, des baisers, un soutien psychologique, un soutien moral pour manifester sa foi. Si je dis à un marié qui dit, bon, moi je dis au 1er janvier, je dis 10 fois à ma femme, je t'aime 10 fois, comme ça c'est valable pour toute l'année. Puis hop, après j'ai la paix pendant toute l'année. Mais c'est pas comme ça qu'on prouve à sa femme qu'on l'aime. Et je dirais, si un homme pendant un an ne dit pas à sa femme qu'il l'aime, il ne faut pas venir me faire croire qu'il aime encore sa femme. En fait, il ne l'aime plus, malgré ce qu'il dit. Oui. C'est ça que cet article 5 est important. Donc la foi formée est une vertu, la foi informe n'en est pas une. La foi formée est une vertu parce que la charité qui lui donne la forme fait que notre volonté se porte infailliblement vers une bonne fin. Mais la foi informe n'est pas une vertu, car bien que du côté de l'intelligence elle soit parfaite, elle n'a pas la même perfection de la part de la volonté. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose qui va travailler sur la volonté, qui est la charité. Donc la foi travaille sur l'intelligence, la charité va travailler dans ce domaine-là plus sur la volonté, mais si la charité n'est pas là pour vivifier la foi par la pratique de la vertu de foi, eh bien notre foi va mourir tout simplement. Alors, la foi est-elle une? Donc, Saint Thomas, va citer Saint Paul aux Éphésiens, un seul Seigneur, une seule foi. Hein. Donc, c'est la vérité suprême dans laquelle est contenu tout ce que nous croyons. Elle est divisée par les sujets dans lesquels elle existe, c'est-à-dire qu'on va diviser l'ensemble des choses à croire en différents articles de foi, l'article du Credo par exemple, mais la foi en tant que telle est une. Bon. Est-ce que la foi est la première des vertus? Donc, alors, dans un sens, oui. Donc, il explique que les vertus théologales, foi, espérance et charité, ça c'est l'article 7 donc, de la question numéro 4. La vertu des vertus théologales, foi, espérance et charité, ont la priorité sur toutes les autres vertus. Donc, c'est plus important que les vertus cardinales, prudence, justice, force et tempérance. Bon. Or, la fin dernière est dans l'intelligence avant d'être dans la volonté. Celle-ci ne recherchant que les objets perçus par l'intelligence. Par conséquence, puisque la fin dernière existe dans la volonté par l'espérance et par la charité, tandis qu'elle existe dans l'intelligence par la foi, il faut que la foi soit la première des vertus. D'accord ? La connaissance naturelle ne pouvant s'élever jusqu'à Dieu, considérée comme objet de la béatitude. Mais cette vertu n'est une véritable vertu qu'autant qu'elle présuppose, toutes les vertus, en général, dit saint Thomas, ne sont des vertus qu'en tant qu'elle présuppose la foi, fondement l'espérance, les défis spirituels. Mais il parle d'une foi vivante, vivifiée, donc vivifiée par la charité. Donc en soi, la foi est la première des vertus. C'est pour ça qu'on dit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu, c'est vrai. Mais on ne peut pas plaire à Dieu sans la charité. C'est-à-dire, la foi va entraîner nos actions pour plaire à Dieu. La foi entraîne la pratique des commandements. Quelqu'un qui connaît la liste des 10 commandements, c'est ça le drame en France, pour la plupart des gens qui sont des catholiques non pratiquants, c'est qu'ils connaissent la liste des commandements, mais dans la pratique, ils ne suivent pas. D'accord ? Je sais très bien que le mariage est indissoluble, mais tranquillement, je vis avec la femme de mon prochain. Bon, quelque chose qui ne va pas. Je sais très bien que je ne peux pas voler, mais dans la pratique, je vole. Donc, ça veut dire quoi de croire aux commandements ? Je sais que les commandements existent, je sais qu'il y a un monde qui existe, mais dans la pratique, je vis comme s'il n'était pas là. Donc là, attention à ça. Hein. Donc la foi Et donc la première des vertus, dans le sens qu'elle est en quelque sorte la fondation même de la charité. Ça, je vais expliquer que la foi peut exister sans la charité, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc c'est dans ce sens-là que la foi est première. Donc saint Thomas va se poser la suite des questions. On avance dans la question numéro 4, donc article 8, question importante. Article 8, la foi. La certitude de foi est-elle plus grande que celle de la science et des autres vertus intellectuelles? Donc,
Oui.
j'ai déjà expliqué que les vertus intellectuelles, donc il y en a cinq. Je trouve ça. C'est ça, il y en a cinq. Donc, deux vertus intellectuelles pratiques, l'art et la prudence, et trois vertus intellectuelles spéculatives, l'intelligence, la science et la sagesse. Donc, il répond, la foi l'emporte en certitude sur la science et sur les autres vertus intellectuelles. Donc, il explique, parmi les vertus intellectuelles, la prudence et l'art ont pour objet des choses contingentes. La foi, qui a pour objet les choses éternelles, que l'on ne peut supposer autrement qu'elles ne sont, l'emporte évidemment en certitude sur ces deux vertus par la nature de son objet. Donc, la foi est au-dessus. Les trois autres vertus intellectuelles, la sagesse, la science et l'intelligence des principes, bien qu'elles aient comme la foi des choses nécessaires pour objet, sont cependant aussi moins certaines qu'elles en ce qui est leur cause et leur motif, que leur certitude ne repose que sur la raison humaine, au lieu que celle de la foi est fondée sur la vérité suprême. Donc la lumière apportée par la foi est une lumière supérieure que la lumière naturelle apportée par l'art et la prudence, d'accord? Ou la sagesse naturelle. Donc il est indubitable, dit saint Thomas, que la vertu de foi est plus certaine en soi, quoique les autres vertus le soient davantage sur certains rapports, c'est-à-dire eu égard à nous. Donc c'est l'explication que j'ai déjà donnée. La foi en soi est la vertu la plus importante, mais il faut qu'elle soit vivifiée par la charité. Donc de ce côté-là, la charité est plus importante. D'accord? Alors, nous allons attaquer maintenant donc la question 5 du sujet de la foi. Hein? Sujet de la foi. Alors, premier article, donc on est question 5 de la seconde à la seconde, le sujet de la foi. Donc, l'ange et l'homme, premier article, l'ange et l'homme, dans l'état primitif, ont-ils eu la foi? Ça veut dire quoi? L'ange et l'homme, c'est avant la chute pour l'homme et avant la chute pour les anges. Donc, ont-ils eu la foi? Alors, saint Thomas va répondre, les anges, avant la confirmation en grâce, et l'homme avant le péché originel, n'avaient pas la claire-vue qui supprime la foi. Ils ne voyaient pas encore Dieu complètement. Donc, ils avaient encore la foi. Parce que si les anges et Adam et Ève avaient eu une vision parfaite de Dieu, ils n'auraient jamais pu pécher. D'accord? Donc, ils ont péché précisément parce qu'ils n'avaient pas encore la vertu de charité qui était en quelque sorte ficelée à eux, pour utiliser un terme moderne. Voyez? Donc, ils n'avaient pas encore la claire-vue, dit saint Thomas d'Aquin. N'ayant pas la claire-vue, ils avaient encore besoin de la foi, parce qu'il y a seuls les anges qui, actuellement, au ciel, ont passé leur test, si vous voulez, et sont avec les bons anges, eux voient Dieu, donc n'ont plus besoin de la voir. La foi. Donc, un ange actuellement n'a pas la foi, il n'a pas besoin puisqu'il voit Dieu. Par contre, avant le test, oui. Donc, la béatitude, dit saint Thomas, commence dans la volonté par l'espérance et la charité, et dans l'intelligence par la foi. Donc là, on voit très bien que l'intelligence va être illuminée par la foi et la volonté va être illuminée par l'espérance et la charité. Donc, ce sont les puces qu'on appelle les puissances de l'âme. L'intelligence et la volonté. L'objet de l'intelligence, c'est le vrai. Donc, la foi va illuminer l'intelligence. Que la foi va nous donner justement la compréhension du vrai. Et l'espérance et la charité vont à leur tour illuminer la volonté. D'accord? Donc, l'ange, avant sa confirmation en grâce, et l'homme, avant le péché, ont eu la foi parce qu'ils ne voyaient pas encore Dieu complètement. Mais ils ont pu avoir une vue manifeste de quelques-uns des mystères divins que la foi seule nous fait connaître maintenant. Bon. Alors, deuxième article. Les démons ont-ils la foi? Alors, la réponse est simple. Foi informe, oui. Foi formée, non. L'apôtre Saint-Jacques dit, chapitre 2, épître de Saint-Jacques, verset 19, « Les démons croient et tremblent. » Il ne faut pas oublier que les démons ont gardé leur nature angélique. Ils continuent de comprendre les choses par intuition, donc bien plus rapidement que nous. Donc, les démons ont la foi, ils ne voient pas Dieu, évidemment, puisqu'ils sont en enfer. Mais ils ont la foi dans le sens qu'ils croient en l'intégralité de toutes les vérités de la foi catholique. Ils croient contraints et forcés sans la charité. C'est une foi purement matérielle en quelque sorte chez eux. Ils croient par exemple que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment dans le tabernacle. Ils croient que notre Seigneur Jésus-Christ est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Ils croient l'incarnation, la rédemption, la Sainte Trinité, tous les dogmes de la foi catholique. Mais ils ont une haine de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que cette foi est une foi informe sans l'illumination par la charité. Donc les démons ont-ils la charité? Non. Ont-ils la foi formée? Non. Ont-ils la foi informe? Oui. D'accord? Pour eux, donc, la foi est une suite de leur pénétration naturelle, du fait qu'ils comprennent les choses par intuition, mais n'est pas un don de Dieu. Alors, dans le polycopier, j'insiste sur l'article 3 de la question 5, donc sur lequel on va passer un peu plus de temps. Donc, page 90 ou 91, selon les polycopiers. Des hérétiques dans l'erreur sur un seul article de foi ont-ils la foi sur les autres articles? Bon. Alors, on peut répondre à cette question facilement, tout ce que j'ai déjà expliqué en suivant saint Thomas. Donc, qu'est-ce que dit saint Thomas d'Aquin? Donc, ce que dit la foi catholique, c'est que tous les articles de foi sont liés les uns aux autres. C'est comme quelqu'un qui dirait « Je crois en l'incarnation, mais je ne crois pas en la Sainte Trinité ». Monsieur, vous ne pouvez pas croire à l'incarnation si vous niez la Sainte Trinité, puisque l'incarnation, c'est l'incarnation de la deuxième personne de la Sainte Trinité. Bon, je crois à l'incarnation, mais je ne crois pas à la rédemption. Et monsieur, notre Seigneur Jésus-Christ est devenu homme pour mourir. Donc, vous ne pouvez pas croire l'un sans croire l'autre. D'accord? Donc, c'est ce que dit, va expliquer saint Thomas d'Aquin, autant le péché mortel détruit la charité, autant la négation d'un seul article de foi détruit la vertu de foi. Donc, quelqu'un qui nie un seul article de la foi catholique, nie la foi catholique. L'Église catholique enseigne, par exemple, c'est un exemple tout à fait au hasard, bien entendu, l'Église catholique enseigne que le pape est infaillible en matière de foi et de mœurs, quand il parle ex cathedra, dans son magistère ordinaire et son magistère extraordinaire. C'est de foi catholique. C'est enseigné en toutes lettres dans Vatican I, 1870, par le pape Pie IX. Donc quelqu'un qui nie que le pape soit infaillible aussi dans son magistère ordinaire, peut-il être avoir la foi catholique? Saint Thomas répond non. Les prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis qui nient que le pape soit infaillible dans son magistère ordinaire, ils ont la foi ou non? Mais si j'applique ce que vient de dire saint Thomas d'Aquin à foi, la réponse est non. Ils n'ont pas la foi. Pourquoi? Parce qu'il leur manque quelque chose de la foi. Ils refusent de croire quelque chose qui est de foi. Il est de foi catholique que le pape est infaillible aussi dans son magistère ordinaire et pas simplement dans son magistère extraordinaire. Parce que c'est évidemment très pratique, le ministère extraordinaire est utilisé par le pape pour une fois tous les deux siècles ou tous les siècles. Alors quand il utilise une forme extraordinaire, il faut croire, et bien après on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut et on croit ce qu'on veut. Ben non, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà ce que dit saint Thomas. Autant la négation d'un seul article de la foi détruit la vertu de foi, autant le péché mortel détruit la charité. Donc quelqu'un qui nie un seul article de la foi détruit la vertu de foi. L'objet formel de la foi est la vérité suprême manifestée par les saintes écritures et par la doctrine de l'Église qui procède de la vérité suprême elle-même. C'est pourquoi quiconque ne s'attache pas comme une règle infaillible et divine à l'enseignement de l'Église, dont l'autorité émane de la vérité première manifestée dans l'Écriture sainte, celui-là n'a pas la foi. Donc je répète cette phrase qui est capitale. Quiconque ne s'attache pas à l'enseignement de l'Église, dont l'autorité émane de la vérité première manifestée dans l'Écriture, celui-là n'a pas la foi. Donc si je nie un seul article de la foi catholique, je nie tous les autres. C'est comme, si vous voulez, on peut expliquer avec une comparaison toute simple, c'est comme une chaîne qui est composée de maillons. Vous enlevez un maillon au milieu de la chaîne, tout tombe. Hein? Ah, mais il y a encore les autres maillons qui sont là. Oui, d'accord, mais ils ne sont plus réunis les uns aux autres. Parce qu'il y en a un qui manque. Il y a un seul maillon qui manque. Ah ben c'est pas grave, la chaîne tiendra avec les autres maillons. Non, monsieur, parce que si au milieu de la chaîne, il y a un maillon qui manque, Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre chaîne, parce que c'est la figure, elle va tomber tout simplement. Quiconque ne s'attache pas comme une règle infaillible et divine à l'enseignement de l'Église, celui-là n'a pas la foi. Donc si j'accepte tous les principes de la foi catholique sauf un, beaucoup de catholiques sont comme ça aujourd'hui, j'accepte tous les dogmes sauf un, je ne me plais pas. J'accepte tous les dogmes de la foi, mais l'histoire d'indulgence, non, ça, je comprends que Luther se soit révolté contre ça, il a eu raison que les protestants, moi j'accepte pas les indulgences. Mais monsieur, les indulgences, c'est la foi catholique. Ah, mais ça, j'accepte pas. Alors, vous n'avez pas la foi. Ah, mais je crois quand même à la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption. Non, monsieur, vous n'y croyez pas. Parce que si vous croyez en l'incarnation, la foi, la Sainte Trinité et la rédemption, si vous prétendez avoir la foi, vous devez avoir la foi dans tous les dogmes de foi. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu à 100%, pas 99% et demi. Donc, si je dis Dieu, j'accepte Dieu en toute chose, sauf dans un point, parce que là, il s'est trompé, ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu. Si Dieu s'est trompé dans la définition qu'il nous a donnée sur les indulgences, dans la demande que nous croyons à l'existence des indulgences, du pouvoir de l'Église de donner des indulgences, si nous a demandé de croire à ça sous peine de faute grave contre la foi, eh bien nous sommes obligés d'y croire. Si je refuse un point qui me semble être un point de détail, comme l'existence des indulgences, je n'ai plus la foi catholique. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans le jeu de ceux qui distinguent entre les points importants et les points secondaires du dogme. Ça, c'est très à la mode aujourd'hui. Moi, je crois à toutes les choses importantes de la foi. Les détails, bon, ben, on n'est pas obligé d'être d'accord. Non, monsieur, si vous êtes catholique, vous êtes obligé aussi d'accepter les détails qui, du moment que l'Église vous demande d'y croire. Hein? C'est comme, je ne sais pas, même quelque chose qui n'est pas de foi. Par exemple, comme... qui n'est pas défini comme étant deux fois divine et révélée, comme par exemple les limbes pour les enfants morts sans baptême. Bon, c'est peut-être pas deux fois divine et révélée, mais ça a toujours été enseigné par l'Église pendant un siècle. Alors, si je nie ça, en fait, dans la pratique, je dis que le bon Dieu s'est trompé dans ce domaine-là. Or, le bon Dieu, si le bon Dieu s'est trompé dans le domaine du baptême, des limbes pour les enfants morts sans baptême, ben alors, il a fait une erreur là, donc il a très bien pu faire une erreur sur d'autres choses. Si je nie son autorité dans ce point-là, même si ce n'est pas de foi, ben je finirai par nier la Sainte Trinité, l'incarnation et la rédemption. Voyez tout ça, donc tous ces dogmes sont liés les uns aux autres comme les doigts d'une même main. Hein? Donc, faire choix parmi les vérités que l'Église ancienne enseigne, embrasser les unes, rejeter les autres selon son bon plaisir, ça c'est le protestantisme et le modernisme de Vatican II, c'est adhérer à sa propre volonté, non pas à la doctrine de l'Église, règle infaillible de la foi. Donne un exemple. Je dis, bon, j'accepte tous les documents de l'Église catholique traditionnelle, mais vous comprenez, la liberté religieuse, ça c'est important, moi j'y crois. Donc je suis Vatican II pour la liberté religieuse. Tout le reste, je suis avant Vatican II, je suis Vatican I, tous les conciles qui ont précédé. Mais monsieur, vous ne pouvez pas faire ça, puisque si j'accepte Vatican II, je suis obligé d'accepter tout Vatican II, y compris le décret sur la liberté religieuse, qui dit que la liberté religieuse est un droit fondamental de tous les hommes qui doit être reconnu même par l'État. Or, l'Église l'a condamné par Pie IX, par Quantacura, en disant expressément que la liberté religieuse est une liberté de perdition et une insanité. Les deux choses ne peuvent pas être valables en même temps, c'est absolument impossible. Donc quelqu'un qui dirait simplement « je crois en la liberté religieuse », en fait, n'a déjà plus la foi catholique.
Il a la foi de Vatican II.
Il a la foi de Vatican II. Donc, vous voyez, on ne peut pas séparer en rondelles de saucisson les dogmes de foi, puis faire un choix. Ça j'accepte, oui, c'est quand même pas mal, monsieur l'abbé. Sur les 250 dogmes de la foi catholique, par exemple, j'en accepte 240, c'est pas mal. Il y en a 5 ou 6 que je mets de côté, celui-là, je n'y crois pas, monsieur, ce n'est pas la foi. Comment, mais je crois 240 dogmes de la foi catholique sur 250. Oui, mais à cause des 10 qui manquent, vous n'êtes pas, n'est pas la foi. Hein, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entre dans le royaume des cieux, celui qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique. Donc le péché, c'est pas de croire aux 240 dogmes de la foi catholique. Le foi, c'est de nier 10 dogmes de la foi catholique, par exemple, dans l'exemple que je donne. Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Voilà, c'est cette phrase très importante de saint Thomas. Donc faire choix parmi les vérités que l'Église enseigne, embrasser les unes, rejeter les autres, selon son bon plaisir, c'est adhérer à sa propre volonté, non pas à la doctrine de l'Église, règle infaillible de la foi, c'est libre examen protestant.
C'est pour ça qu'il faut crucifier notre volonté.
Exactement. Exactement. Donc l'hérétique qui nie obstinément un article de foi n'est pas disposé à suivre en tout l'enseignement de l'Église, et dès lors il n'a pas la foi à l'égard des autres articles, il a simplement une opinion conforme à sa volonté, donc il n'a pas la foi. D'accord ? Donc le refus de croire un seul article s'oppose à la foi, c'est déjà un péché mortel contre la foi. Si c'est un péché mortel contre la foi, il n'y a plus la lumière de la charité, donc c'est une foi informe. Vous avez tout ça résumé en page 90, en bas de la page, ou page 91 selon les polycopiés. Donc des hérétiques dans l'erreur sur un seul article de la foi, ont-ils la foi sur les autres articles ? Réponse est non. Encore une fois, on ne peut pas découper en rondelles de saucisson la doctrine de l'Église et prendre que ce qui nous plaît. Il faut tout prendre, c'est tout ou rien. Donc, l'hérétique qui refuse de croire à un seul article de foi ne garde pas l'habitus de foi, ni de foi formée, ni de foi informée. Il n'a plus la foi du tout. D'accord ? Par suite, celui qui n'adhère pas, comme à une règle infaillible et divine, à l'enseignement de l'Église qui procède de la vérité première, révélée dans cette écriture, celui-là n'a pas l'habitus de foi. Hein ? Oui, c'est quand même très important de bien comprendre ces articles. Hein. Donc l'hérétique qui refuse, un hérétique c'est quelqu'un qui refuse avec opiniâtreté un dogme de la foi catholique, tout en sachant qu'il est enseigné comme tel par l'Église. Donc, il est évident, dit saint Thomas, que l'hérétique qui refuse opiniâtrement de croire à un seul article de la foi n'est pas prêt à suivre en tout l'enseignement de l'Église, car s'il n'a pas cette opiniâtreté, il n'est pas hérétique. Il est simplement dans l'erreur. Par là, il est clair que celui qui est un hérétique opiniâtre à propos d'un seul article n'a pas la foi à propos des autres articles. Ça, c'est très important quand on parle avec les protestants. Ah mais les protestants ont la foi sur des tas de choses, donc on peut faire un bout de chemin avec eux. Non, parce qu'en fait, les protestants nient certains points essentiels de la foi catholique, notamment sur le pape, la justification, la grâce, l'Église, etc., les sacrements, tout ça. Donc ils nient des dogmes, un moins de quelques dogmes de la foi catholique. Donc tous les autres dogmes qu'ils pensent accepter, en fait, ils ne les acceptent pas. Et c'est une phrase fondamentale de saint Thomas. Je répète cette phrase, celui qui est hérétique opiniâtre à propos d'un seul article de la foi catholique n'a pas la foi à propos des autres articles. Donc on ne peut pas être catholique à 95%. On est catholique ou on ne l'est pas. Si on est catholique, on accepte l'intégralité des dogmes de la foi catholique. Si on n'est pas catholique, il suffit d'en refuser un et du coup on n'est plus catholique. Pour que quelque chose soit vrai, il faut que tout soit vrai dans la chose. Il suffit qu'il y ait un élément de la chose qui ne soit plus vrai, la chose n'est plus vraie. Elle est mauvaise. Et j'ai vu sur une tarte aux pommes d'une goutte d'arsenic dans un coin, ça suffit pour rendre la tarte aux pommes mauvaise. Ah mais encore 99% de la tarte qui est bonne. La goutte, elle ne s'est pas mélangée avec le reste de la tarte, donc il y a un coin qui est mauvais, je vais mettre une petite flèche rouge là, une petite croix rouge pour ne pas prendre ça, une tête de mort à cet endroit-là, et je prends le reste. Non monsieur, il n'y a pas question, pourquoi ? Parce que votre tarte aux pommes, elle n'est plus bonne. Ah mais elle est bonne à 95%. Non ! Puisqu'il y a 5% qui est mauvais, ça veut dire qu'elle n'est plus bonne. 1%. Même 1%. D'accord ? Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Les gens du monde, un monde mal fou à comprendre cet article de saint Thomas. Donc l'hérétique, lui, il admet, si vous voulez, des points de foi par sa propre volonté, par son propre jugement. Donc c'est une foi purement naturelle. Mais la foi adhère à tous les articles de foi en raison d'un seul moyen, c'est-à-dire de la vérité première telle qu'elle nous est proposée dans les Écritures, sainement comprise selon l'enseignement de l'Église. C'est pourquoi celui qui se détache de ce moyen est totalement privé de la foi. Vous voyez, saint Thomas d'Aquin va fort. Il a raison. C'est exactement l'enseignement de l'Église. C'est-à-dire, si je nie un seul dogme de la foi catholique, il ne faut pas dire je suis un mauvais catholique, il faut dire je ne suis plus catholique du tout, monsieur. Si quelqu'un nie un dogme de la foi catholique, il ne faut pas dire j'ai encore la foi catholique à 95%. Non, monsieur, vous n'avez plus la foi catholique parce que vous niez un dogme de la foi. Ça, il faut que les prêtres de la fraternité Saint-Pélice commencent à réfléchir un peu là-dessus, hein, parce qu'ils sont en train de dégringoler à une vitesse ahurissante. Et ça entraîne, le problème, c'est quand on perd la foi, ça entraîne des conséquences au niveau de la morale. Je reçois encore régulièrement des coups de téléphone, des messages de gens qui vont encore à la fraternité Saint-Pélice qui nous disent « Monsieur l'abbé, je ne suis peut-être pas encore capable de voir les erreurs au niveau de la foi, mais je vois la descente catastrophique au niveau de la morale. » Alors la distance, la descente catastrophique au niveau de la morale, ça vient de quelque chose. Ça peut pas venir de. Ça vient du fait qu'il manque la foi. La foi n'est plus là. Quand on voit, par exemple, certaines chapelles, la fraternité de Saint-Pilis, que moi j'ai connue comme florissante, avec un esprit de foi, une piété extraordinaire, je vois ce que c'est devenu maintenant parce que les prêtres laissent tout faire, que les bonnes femmes arrivent, les femmes arrivent à la chapelle en Bermuda ou en mini-jupe et qu'on ne dit plus rien, qu'il n'y en a plus une seule qui ait le courage de mettre un voile sur la tête et que le prêtre ne dit plus rien. Bien, je m'excuse, ça correspond à un manque de foi de la part du prêtre. Oui. Si le prêtre avait une foi forte, ces choses-là n'arriveraient pas, ça c'est sûr.
Il ne veut pas perdre d'autres fidèles.
C'est sûr et certain. Et encore, j'ai reçu un coup de téléphone il y a quelques jours à propos de ça. C'est exactement ça. Exactement ça. On voit la perte de la foi par la perte de la morale. Pourquoi ? Parce que la perte de la morale traduit la perte de la charité, en fait. Et qu'est-ce qui reste chez eux ? Il reste la charité non formée. Il reste plus exactement la foi informe, il commence à tout laisser faire. Et donc, ça, de plus en plus de laisser aller au niveau vestimentaire, de plus en plus de laisser aller au niveau d'autres choses, comme par exemple laisser aller au niveau de la morale conjugale, laisser aller au niveau de tas d'autres choses. Pourquoi ? Parce qu'il commence à laisser tomber certains points de la foi catholique. Entre autres l'infaillibilité pontificale dans le magister ordinaire. Alors, pour terminer cette question 5, la foi est-elle, article 4 de la question 5, la foi est-elle plus grande dans un individu que dans un autre ? Attendez, j'ai tout mon papier là. La foi est-elle plus grande dans un individu que dans l'autre ? Donc le Seigneur a dit à Pierre, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté ? Par contre, il a dit à une femme dans l'Évangile, votre foi est grande, femme. Donc la foi est plus grande dans certains hommes que dans d'autres. Puisque la foi est un don de Dieu, ce don peut très bien être pas égal dans tous les fidèles. Donc il y a des degrés de foi qui sont différents parmi les fidèles. Et donc cette question 5 est très 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 importante. Donc on va aller trop vite. Sinon vous allez être décroché, mais c'est important de bien connaître ces parties-là. Hein. Donc on en est maintenant en haut de la page 91 sur le polycopier. Donc aujourd'hui on est le combien ? On est jeudi.
Oui.
Le 25 1 2018. Donc si Dieu veut. Nous prendrons le cours à partir de la question 6 de la cause de la foi. Donc en avançant lentement, pour rattraper le polycopier en page 92 avec la question 15, article 3. Encore une fois, le polycopier n'est pas toute la somme. Je ne peux pas mettre toute la somme réduite dans un polycopier. Il faudrait des centaines et centaines de pages. Je résume certaines choses, je complète ce qui manque. On va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi
soit-il. Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.